Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Ça commence bien ! Mais là, c'est vous qui me faites marcher avec un micro et un parapluie en guise d'antenne. Non, qu'est-ce qui me fait marcher ? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait plusieurs heures pour répondre à cette question. Je serais tentée de dire l'écriture, mais ça serait réducteur. Est-ce que c'est pas l'inverse ? Est-ce que c'est pas... Disons l'écriture, c'est une bonne réponse. En tout cas, en ce moment, c'est ça.
Bonjour, avec la complicité de la librairie Aladdin, nous accompagnons dans la rue Zena Abirached, auteur du Piano Oriental, bande dessinée parue aux éditions Casterman.
Disons l'écriture, c'est une bonne réponse. En tout cas, en ce moment, c'est ça. L'écriture, le dessin, un travail sur finalement mon identité, mes origines, mon arbre généalogique, puisque ce que j'écris a beau être ressembler à de la fiction, c'est quand même inspiré de la vie de mon arrière-grand-père, là, en ce qui concerne le piano oriental, puis dans mes précédents livres de souvenirs de mon enfance. Donc oui, c'est l'écriture et ce travail sur finalement sur, oui, sur l'identité. Sur les identités.
Vous avez trouvé tout de suite votre style ?
Eh bien, mon style, si style j'ai, il s'est construit au fur et à mesure des livres. J'ai commencé en 2002, j'étais encore à Beyrouth, au Liban. Et j'ai commencé avec un petit récit d'une quinzaine de pages qui s'appelle Beyrouth Catharsis, un petit format. Et à l'époque, j'avais ressenti cette urgence d'écrire, ce besoin de raconter un souvenir très précis de la guerre civile de mon enfance au Liban. Mais je ne pensais pas que je pouvais dessiner. Mais en revanche, j'avais besoin de dessiner Beyrouth, qui était en plein changement à l'époque, en pleine reconstruction. J'avais besoin de ce rapport du texte à l'image. Donc je me suis mise à dessiner un peu par défaut, avec les moyens du bord. Et j'ai en fait procédé par élimination. C'est-à-dire que ce que je ne savais pas faire, ce que je n'étais pas capable de le faire, je ne le faisais pas. En revanche, je faisais des choix de cadrage et de point de vue qui venaient soutenir le propos. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris confiance. Je pense que mon dessin s'est un peu étoffé. Et aujourd'hui, il y a ce travail sur le motif qui est très présent, voilà, qui a évolué en fait au fil des livres. Chaque fois que j'ai fait un livre, je crois que j'ai compris quelque chose ou j'ai appris quelque chose peut-être. Même des choses minuscules, mais c'est bien, ça fait avancer. On m'avait dit il y a 10 ans que je ferais ça, je l'aurais pas cru parce que c'était pas du tout prévu et ça me semblait pas être quelque chose que je serais capable de faire, tout simplement dessiner, raconter par le dessin. Mais après, cette urgence, besoin de le faire, s'est construit ce qu'on peut appeler un style aujourd'hui, mais qui est en fait avec les moyens du bord.
J'aime bien faire des petits clins d'œil par rapport à ma lecture.
Oui.
Donc, petite réflexion sur les onomatopées.
Oui.
Et les différences entre leur retranscription en arabe.
Oui.
Vous dites en libanais ou en français ?
Je dis en libanais parce que c'est l'oralité. Et c'est le libanais. L'arabe, c'est la langue littéraire, c'est la langue écrite, c'est celle qui est... Finalement, c'est la langue qui est commune à tous les pays arabes, mais le libanais, c'est vraiment la langue orale qu'on parle au Liban. Donc c'est cet arabe oral. C'est pour ça que je dis libanais.
Dans votre bande dessinée, il y a plein de bruits.
Oui.
Et très bruyante. Hein.
Oui.
Alors ça donnerait quoi ? Parce que là, on entend des bruits de pas. Alors ça donnerait quoi ?
Ben, c'est un travail sur le son, c'est un travail sur le rythme aussi. Donc il faudrait, varier les... varier nos pas là. J'avais envie que le livre soit aussi sonore que visuel et que le lecteur ait l'impression d'être devant presque une portée musicale avec toutes les annotations, les notes évidemment et toutes les annotations de rythme, de tempo, etc. Et de travailler en noir et blanc, c'était un vrai délice pour ça parce que justement le rythme qu'induit le noir et blanc, bon, ça permet de faire des choses graphiquement assez chouettes. Et de varier le rythme de lecture aussi, parce que toutes les pages ne se lisent pas à la même cadence. Voilà.
Alors ça ferait pan, en français et puis en libanais. On essaie de retranscrire. Là.
Mais quoi?
Là, les bruits de pas.
Les bruits de pas, hein? Moi j'aurais dit poc. Poc. Cloc.
Donc ça c'est à Nantes et à Beyrouth ce serait
là. À Beyrouth, on entendrait des klaxons, on n'aurait pas entendu les bruits de pas. Il y aurait eu tellement de bruit dans la rue que on n'aurait peut-être pas entendu nos pas là. Mais sinon, ça donnerait pas. Peut-être quelque chose de plus, un peu plus, ouais, plus comme ça, pas.
Vous justifiez aussi autrement le noir et blanc.
Oui.
Par rapport à la France.
Oui.
C'est venu après
ou... Oui, ça c'est venu après, en écrivant Le Piano Oriental, donc qui n'est pas mon premier livre. C'est vrai qu'il y a un moment où je raconte qu'on étudiait le français au Liban pendant mon enfance, au lycée, au collège et au lycée, avec des manuels scolaires écrits et publiés en France, mais dans des versions destinées à l'export, donc imprimées sur du papier très fin. Et toutes les images étaient en noir et blanc pour des raisons de coût, tout simplement. Et c'est vrai que, bon, c'est pas vraiment une théorie, mais je trouve ça... Je note simplement que la France et la langue française ont été longtemps, pour moi, accompagnées d'images en noir et blanc. Est-ce pour cela que je travaille en noir et blanc aujourd'hui? Non, mais c'est amusant de le noter. Mon arrière-grand-père, Abdallah Shahin, de son vrai nom, qui est devenu Abdallah Kamanja pour les besoins de la fiction.
Ah, j'ai mon parapluie qui est en train d'essayer de s'échapper de mon sac à dos.
Et puis, donc c'est mon arrière-grand-père, Abdallah Shahin, Kamanja pour les besoins de la fiction, qui a inventé ce fameux piano oriental qui permet de jouer les quarts de ton. En fait, c'est un piano qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde. Hein. Il n'a aucune... La surprise vient simplement quand on essaye d'en jouer. Il a ajouté une pédale qui fait décaler tous les marteaux à l'intérieur du piano et qui permet de jouer les quarts de ton quand on appuie dessus. Et quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc c'est un genre de piano bilingue qui est capable de jouer les deux langages musicaux, parfois même dans une même phrase. Et c'est le lien, au fond, avec moi et avec ma vie. Et ce piano existe en un seul exemplaire. Il est toujours dans la famille, chez mon grand-père, au Liban. Voilà, il n'a jamais été fabriqué à grande échelle. Et c'est un exemplaire qui a été fabriqué chez Hoffmann, le facteur de piano, à Vienne, à la fin des années 50. Voilà.
Et donc, vous mettez en parallèle votre itinéraire avec celui de votre grand-père qui part, alors lui, en bateau pour rejoindre l'Europe et Vienne.
Oui, c'est ça. À l'époque, on prenait le bateau pour faire le tour de la Méditerranée jusqu'à Marseille. Puis de Marseille, il a pris le train. Enfin, c'était c'était une épopée, son voyage jusqu'en Occident, jusqu'à Vienne. Alors forcément, il y a ce lien avec ma vie qui est celui du bilinguisme, du rapport... c'est-à-dire ce piano qui arrive à jouer les quarts de ton, c'est un peu mon rapport à mes deux langues maternelles qui sont l'arabe et le français. Tiens, un accordéon. Et bien sûr, on a des points communs dans notre cheminement personnel. Le départ de Beyrouth pour l'un pour aller à Vienne, pour moi pour aller à Paris il y a une dizaine d'années. Il y a pas mal de points communs. Et comme je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, c'est vrai que ça permettait de faire des passerelles avec cet aïeul. J'ai beaucoup fantasmé sur sa vie, sur ce qu'il était quand j'étais enfant. Il paraît que sur sa carte de visite, c'était écrit son prénom, son nom, et un peu plus bas, inventeur, à la place où on écrit le métier. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui devait avoir... En tout cas, je l'imagine comme quelqu'un de... Une personnalité assez riche... Quelqu'un de passionné, dynamique, enfin voilà, quelqu'un qui, moi, j'aurais bien aimé le connaître.
la musique orientale doit se jouer sur un piano.
Ah non. C'est bien pour ça que ça n'a pas marché. Parce que il y a beaucoup d'accordéons, il y a d'autres façons de... C'est-à-dire que le piano n'est pas un instrument indispensable à la musique orientale. C'est bien pour ça, je pense, que ça n'a pas fonctionné. Hormis le fait que dans les années 80, pendant la guerre civile au Liban, il y a eu les claviers électroniques avec une touche mode orientale, où comme par magie, on arrive à jouer le quart de ton, justement, mais non pas de façon mécanique, mais bon, ça suffit parfaitement. Ce qui explique pourquoi il a été obsolète avant d'exister. Mais effectivement, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'un musicien s'empare du piano oriental pour en faire encore autre chose. C'est-à-dire une musique entre les deux cultures, les deux modes musicaux, un peu comme fait Ibrahim Maalouf avec sa trompette orientale aujourd'hui. C'est qu'il a compris que... Enfin, il a compris, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais disons qu'il fait du jazz sur sa trompette. Il ne fait pas seulement de la musique orientale, il fait quelque chose de double, justement, une musique double.
Quelle est la raison ou la pertinence de vouloir à tout prix réunir les deux cultures?
C'est-à-dire que j'ai pas le choix, c'est ce que je suis en fait. J'ai grandi au Liban, j'ai été élevée dans deux langues, le français et l'arabe, mais avec tout ce que charrie la langue, de culture, d'habitude, et je ne peux absolument pas me passer de l'une ni de l'autre. Et donc, c'est une façon d'être et je pense que ça vaut le coup de le raconter.
On chope l'accent dès qu'on reçoit ses papiers. Français.
Oui. Très paradoxal, ça, oui. C'est vrai qu'on arrive
comme quoi
en
dans
France,
l'inconscient.
Oui. Mais il y a cette phrase très belle, d'ailleurs, qui a été popularisée par Fernandel, de ce poète Zarmacoïs, qui dit « Parler avec l'accent, c'est à chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. » C'est joli, non ?
Il y a l'accent et puis aussi on vous renvoie à vos origines dès lors que vous accédez à la nationalité française.
Oui, c'est-à-dire que avant d'être naturalisé, et d'ailleurs parmi tous les mots de la langue française, pourquoi avoir choisi celui-là pour
vous empailler.
Oui, voilà. Je trouve ça assez. Enfin, la question est posée. Hein. Je n'y réponds pas dans le livre, mais je la pose. Disons qu'avant d'être naturalisé, tout ça est inconscient. Hein. J'avais un contrôle très très strict sur ma langue. Pour la première fois de ma vie, en arrivant en France, il a fallu que je trie justement entre le français et l'arabe et que je ne parle plus que le français. Donc j'avais un contrôle énorme sur mon phrasé, le choix de mes mots. Je faisais très très attention, inconsciemment. Et puis j'ai été naturalisée française et tout d'un coup, et je me disais mais ça ne va rien changer puisque je me sens bien là et de toute façon, blablabla. Et en fait, si, ça a changé une chose, et pas des moindres, c'est mon rapport à ma langue. Parce que tout d'un coup, ça s'est détendu, une fois que j'ai eu mes papiers français, une fois que j'ai échangé ma carte de séjour temporaire contre une carte d'identité, inconsciemment, quelque chose s'est détendu dans mon rapport à ma langue, où je me suis remise à parler normalement le français, c'est-à-dire à m'autoriser de temps en temps un petit accent, un petit relâchement, un petit mot d'arabe qui sort parfois, pourquoi pas. Et les gens se sont, alors même que j'étais française, on a commencé à me dire « Ah tiens, d'où vient ce petit accent chantant ?» Pour la première fois. Enfin voilà, c'est assez drôle ce que notre rapport aux langues dit de nous.
Ça m'arrive de prendre un kawa.
Oui. Oui, c'est plus maghrébin en fait, le terme kawa. Mais oui, bien sûr. Ah ouais, en libanais.
Nous accompagnons dans la rue Zeina Abirached, auteur du Piano Oriental, bande dessinée parue aux éditions Casterman. Qu'emporteriez-vous si vous deviez aller sur une île déserte ?
Pardon, ça nous fait beaucoup rire parce qu'on a eu un sujet d'écrit là-dessus.
Non.
Si, juste la semaine dernière, qu'est-ce qu'on emmenait déjà?
Un couteau.
Est-ce qu'on a le droit à des proches ou on doit être tout seul sur l'île?
On a le droit à quoi?
Ce que vous voulez. Il faut que ça rentre dans une valise quand même.
Pas plus de 23 kilos. Ou alors vous.
Non, pas une personne, quelque chose.
Des livres, je pense.
Ouais, des livres. Pour rester connecté.
Nécessaire de survie, j'imagine.
Un maillot de bain. Faut se baigner, un maillot de bain, un ordi et de quoi faire la connexion. Et de quoi faire la connexion là-bas, tu vois, tout le matos et tout pour survivre.
Si vous êtes sur une île déserte,
ouais,
maillot de bain.
Un maillot de bain, ouais.
Ouais, mais bon, ouais, c'est pas faux. Si je suis toute seule à poil, c'est bon, ouais, c'est pas faux.
C'est pas très lourd un maillot de bain. On peut l'emporter, c'est pas.
La crème solaire.
Il n'y a pas forcément une logique en fait.
Du coup, on n'a pas besoin d'emmener le rasoir. Il n'y a plus besoin de s'épiler, c'est bon.
Oh, c'est sale.
Bah, c'était toute seule.
Le titre, le piano oriental, ça vous évoque quoi?
Une musique étrangère, du voyage peut-être.
Ouais, l'Orient. Musique douce et rythmée. Non?
Oui, de la musique orientale, enfin voilà, des trucs, des rythmes, ouais, un petit peu exotiques, orientales, etc. Voilà.
Orientaux,
voilà.
Et vous avez déjà entendu de la musique orientale jouée sur un piano?
Pas sur un piano, il me semble pas, parce que j'ai pas mal voyagé. Je suis allée au Maroc plusieurs fois, en Algérie, en Tunisie, mais non, c'est pas... Les instruments, c'est pas du piano.
On explique?
On explique, oui, parce que ce piano qui permet de jouer la musique orientale, il existe, mais à un seul exemplaire. Il existe au Liban, à Beyrouth. Et c'est mon arrière-grand-père qui l'a inventé dans les années 50, entre Beyrouth et Vienne. Aujourd'hui, on utilise surtout les synthétiseurs pour jouer du piano sur la musique orientale, mais c'est effectivement pas un instrument indispensable à la musique orientale.
Vous êtes lecteur, lectrice de bande dessinée?
On est en études en fait, de communication visuelle, donc on a un peu mis le pied dedans, mais là, pour l'instant, on a plus du travail en fait, de création, et on fait beaucoup d'études documentaires, donc sur la BD entre autres, ça va venir. On fait l'illustration aussi.
Vous êtes de la même école?
Oui.
Sauf moi, mais non, moi ça m'arrive de lire des BD, ouais, j'aime bien ça. L'esprit sympa. Voilà.
Vous voulez jeter un œil?
Blanc,
belle charte graphique.
Je me rappelle plus, non, mais j'ai vu j'ai lu une BD qui ressemblait avec un instrument aussi. Je crois que c'était un luth ou un... Je sais plus comment c'est.
Ouais.
C'est l'histoire d'un homme, sa femme lui casse son instrument et il déprime beaucoup
c'est
après.
C'est un livre de Marjane Satrapi.
Je voulais pas la citer, moi, parce qu'on doit vous la...
Tout le temps, mais c'est pas... Voilà, c'est... ça fait partie de mon arbre généalogique.
Non, c'est sympa, c'est beau et tout, les graphismes sont jolis et tout, c'est sympa.
C'est vrai que là, on a des yeux d'étudiants, d'experts. Enfin, d'experts et d'expertes.
Non, c'est sympa.
Mais vous dessinez, vous, en
ouais.
fait
ouais. Bah, on fait que ça.
Donc, okay.
Mais on démarre, mais on a un œil, on se crée un peu en univers aussi grâce à différents profs, je veux dire. Là, on a fait des études doc justement sur des grilles optiques. Enfin, tout ce qui tourne autour des couleurs chromatiques, justement. Donc c'est intéressant de travailler que sur du noir et blanc. Je trouve ça... C'est très illustratif, c'est sympa, ouais.
Et à partir de quel niveau de détail on commence à décrocher?
Décrocher? En lecture ou en...
En lecture?
Bah, il a l'air assez conséquent. Je pense pas qu'on peut le lire d'un trait, mais quoique...
Peut-être pas d'un trait, ouais.
Décrocher.
On perd son attention. C'est pas une critique, hein, c'est juste...
Non, mais vous pouvez critiquer.
Non, c'est lourd. C'est vrai que c'est sûr préciser. Que, on fait pas ça d'une traite, mais après, ça a l'air sympa et... Ça a l'air plutôt cool.
Le détail du dessin, vous voulez dire? Je pense pas que ça joue à la compréhension. C'est un univers propre au dessinateur, mais ça joue. Je crois pas qu'on décroche si c'est plus ou moins... Au contraire, ça donne des choses à regarder. On prend le temps. On a été visiter une exposition autour de la BD Sens de Marc-Antoine
Mathieu.
Marc-Antoine Mathieu. Mais c'était très épuré.
Marc-Antoine Mathieu, oui, je l'ai lu déjà au Liban. Il y avait une seule librairie qui importait certains livres en bande dessinée qui n'était pas de la bande dessinée franco-belge. Et je crois que j'étais la meilleure cliente de cette librairie. Et c'est là que j'ai découvert les livres de Marc-Antoine Mathieu, mais c'était il y a une quinzaine d'années, hein, même un peu plus.
Et pour le néophyte que je suis, comment présenter le travail de Marc-Antoine ?
Allez-y.
Bah de mémoire, il y avait uniquement des images, en fait. Ils font passer ils faisaient passer un message sur l'image et chacun interprétait un peu la scénographie. C'est-à-dire qu'on ne voyait jamais son visage et il y avait un sens, d'où le titre. Mais le sens était un peu flou.
C'est l'expo, ça, oui.
Ouais.
Moi, j'ai pas vu l'expo, mais c'est un auteur, donc dessinateur et scénariste, qui travaille en noir et blanc, qui est aussi scénographe à côté et qui joue sur les codes de la bande dessinée. Donc sur vraiment, il y a certains livres qu'on peut lire du début à la fin et puis reprendre de la fin au début. Donc il travaille sur les codes de la narration et sur les codes de la bande dessinée, par exemple sur les cases. Certaines cases sont évidées, donc ce qui fait que c'est le même dessin qui fonctionne sur deux pages, la page du dessous et la page où la case est évidée. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc il travaille vraiment les codes de la bande dessinée, voir jusqu'où. Il y a des mises en abîme, il y a énormément de choses qui graphiquement...
Voilà, dans la scénographie, il y avait une vidéo sans fin en fait. On le voit escalader à une flèche. Il suivait un sens et ensuite il y a un rapprochement du plan et on trouve plus le sens de l'image en fait. Soit ça recule, soit ça avance, c'est hyper flou et c'est ça qui est intéressant sans avoir de texte en fait.
Il existe un dictionnaire des onomatopées non pour auteur de bande dessinée non
jamais vu moi personnellement mais.
Des dictionnaires bon, on les invente après je pense que.
On trouve ça sur internet je pense.
Mais dictionnaire pur.
Dictionnaire pur, je pense pas. Après.
En fait, qu'on entend et qu'on écrit, moi je vois plus ça comme ça. On a un prof qui fonctionne aussi beaucoup comme ça. Il a des idées, il les écrit dans un carnet et les onomatopées, je pense que c'est un peu.
Dans après, c'est très auditif aussi, enfin, ouais. Ça dépend les tons, ça peut être un haut.
C'est ta mémoire et c'est ce que toi tu as envie de mettre sur
mais
le.
Mais il y a les classiques que tu retrouves tout le temps, boom, zap.
Et ça dépend de la langue aussi, dans laquelle on parle, parce qu'un chat ne fait pas miaou de la même façon en anglais qu'en arabe, qu'en français. Ouais. C'est vrai que les onomatopées changent en fonction du langage.
Ouais, ça dépend vraiment du son de chacun et de chaque culture, etc. Ouais.
C'est bête parce qu'on avait un bruit de fond, je ne sais pas si vous l'avez encore en mémoire, et j'aurais voulu que vous me traduisiez ce son en onomatopée.
Moi je reprendrais le même son que lui, mais voilà.
Ça commence en vous et ça finit en vzz, c'est beaucoup de z.
Oui, voilà, c'est un peu ça.
Et vous ?
Avec un peu de ouin aussi, non ? Zouin ! Un truc un peu qui finit pas. C'est vrai que c'était amusant de travailler le son, même le son qui est un peu annexe à l'histoire. Par exemple, Abdallah Kamanja a un canari chez lui qui s'appelle Ludwig, qui n'arrête pas de gazouiller. Plusieurs fois dans l'album, on me dit « Tais-toi Ludwig, on ne s'entend plus ». Enfin, le son en fait, du quotidien prend de la place dans la page à un moment pour fêter une bonne nouvelle, pour fêter la réception de la lettre de Hoffmann qui l'invite à aller à Vienne. Il achète des chaussures en cuir. Le cuir est encore un peu dur parce que les chaussures sont neuves, elles croassent sur le trottoir pendant plusieurs pages. Voilà, donc le son, c'était très amusant de travailler même le son du quotidien, voilà, et ces onomatopées-là. C'est une façon de faire revivre le Beyrouth de ces années-là aussi. Le Beyrouth des années 60 où la ville n'avait pas encore connu les 15 années de guerre civile, où j'imagine qu'on avait un autre rapport au territoire, que peut-être la circulation était plus libre dans le sens où elle n'était pas inconsciemment chargée de la violence de la guerre civile qui s'est déroulée dans les quartiers. Voilà. Et c'était l'occasion, oui, d'explorer ce Beyrouth-là, pour lequel peut-être ma génération a un peu de nostalgie, parce qu'on est né après, dans une ville déjà détruite, déjà coupée en deux, mais on était bercé par les récits de nos grands-parents, de ce Beyrouth un peu de carte postale, ce paradis perdu au fond, qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître.
Qui sent un peu la naphtaline.
Moi, j'ai toujours trouvé qu'il sentait bon, mais maintenant que vous le dites, il faudrait peut-être que j'accepte qu'il sent aussi la naphtaline. Oui.
Quand on a plus de temps, je peux préméditer des petites visites. On aurait été visiter un magasin de lingerie fine.
Pour faire plaisir à Victor Chalit, hein, le meilleur ami de Abdallah Kamanja, qui est le personnage principal, qui donc a un magasin, les établissements Chalit et Fils, au centre-ville de Beyrouth, et qui, une fois par an, avait l'habitude d'aller à Paris s'approvisionner en lingerie fine. Et c'était un peu le haut lieu de la... Enfin, c'est dans son magasin que toutes les grandes familles bourgeoises venaient s'approvisionner. Et donc, il avait comme ça des... De mère en fille, il connaissait des générations entières de femmes qui venaient acheter de la lingerie chez lui. C'était un peu le pendant d'Abdallah, qui lui était petit, rond... artiste, mais peut-être plus introverti. Victor, lui, était grand, maigre, aimant bon vivant, aimant les femmes, les voyages, peut-être un peu plus dégourdi qu'Abdallah. Et c'est lui qui l'accompagne à Vienne pour aller rencontrer Hoffmann, et ils sont un peu inséparables tous les deux.
Merci à Zena Abirached, auteur du Piano Oriental, bande dessinée parue aux éditions Casterman, et merci à
Clara, Juliette,
Brieux
pour leur libre participation à ce reportage enregistré à Nantes avec la complicité de la librairie Aladin.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, et c'était amusant aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'a pas de micro. À proximité, on ne se rend pas compte de tous les bruits de la ville, au fond. Et c'était très chouette de faire ça avec un micro. Et du coup, de peut-être tendre un peu plus l'oreille au son qui font que ce sont... Finalement, ce sont ces sons qui... C'est un peu une carte postale sonore de Nantes. Est-ce que ce sont vraiment des sons de Nantes et uniquement Nantes ? Oui, sans doute, parce qu'on est passé devant la gare, devant des trams, devant... Tiens, ça c'est un klaxon nantais. oui, peut-être ce qui fait l'identité sonore de cette ville. Ouais, c'était très chouette. Merci beaucoup.
Rendez-vous en mars.
Allez, top là.